VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 1er avril 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Nouveau gouvernement en Mauritanie qui se veut plus proche des citoyens selon le Premier ministre reconduit Mohamed Ould Bilal. En Tunisie, la justice a convoqué le président du Parlement dissous, Rached Ghannouchi, accusé de complot contre la sûreté de l'État. Le pape François a présenté ses excuses aux autochtones canadien pour les violences dans des pensionnats de l'église depuis le 19e siècle. En Ukraine, le CICR estime qu'il est impossible d'évacuer aujourd'hui des milliers de civils bloqués à Mariupol. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. Nouveau gouvernement en Mauritanie. La liste a été dévoilée hier soir. L'équipe comprend toujours 27 ministres avec 15 départs. Les détails avec notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop.
L'annonce du nouveau gouvernement a été faite par le nouveau secrétaire général de la présidence de la République, Yahya Ahmed Warf, ancien premier ministre et actuel vice-président du parti au pouvoir, Union pour la République, UPR.
Son Excellence a nommé, sur proposition du Premier ministre, les hommes et les femmes dont les noms suivent. Ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Oul Cheikh Abdellah Ould Boya, ministre des Affaires étrangères et des Mauritaniens.
On note cependant le départ de 15 ministres, dont celui des Affaires étrangères et son homologue de la santé. L'équipe garde toutefois le même nombre, 27 ministres. Le nombre des femmes est aussi resté 5. Mais désormais, une femme, Zeynep Mitar Medna, occupe le poste de secrétaire général du gouvernement. Le premier ministre, Mohamed Ould Bilal, qui a été reconduit après sa brève démission, a lui promis.
Un gouvernement proche des citoyens, comme le souhaite le président. Un gouvernement qui s'occupe des populations.
Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Au Nigeria, 13 femmes et enfants sont morts noyés mercredi dans le naufrage d'une pirogue sur laquelle ils avaient embarqué pour fuir leur village attaqué par des zones armées dans le centre du pays, ont indiqué aujourd'hui les autorités locales. La pirogue surchargée et mal entretenue avec laquelle ces femmes et enfants ont tenté de fuir leur village de Gouni et de Kourgbaku dans le district de Mounia dans l'état du Niger a chaviré dans la rivière Gouni Zumba, selon le chef des urgences locales Ibrahim Ahmad Inga. La force française anti-djihadiste Barkhane, en pleine manœuvre logistique pour quitter le Mali, a annoncé de nouvelles opérations et la neutralisation d'un cadre affilié à Al-Qaïda le 28 mars. Il s'agit de Boubacar Banon, chef d'un groupe impliqué dans des attaques indirectes contre Barkhane et les forces internationales, selon le porte-parole de l'état-major Pascal Yanni. Ce cadre du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a été tué par une frappe de drone alors qu'il circulait à moto à 30 km au nord de Gossi dans la région de Gao, a-t-il précisé. En République démocratique du Congo, un tribunal militaire a condamné ce vendredi à un an de prison ferme 12 militants opposés à l'état de siège dans deux provinces de l'est du pays. Les militants du mouvement Lucha avaient été arrêtés en novembre à Beni, dans la province du Nord Kivu, lors d'une manifestation interdite contre la prorogation de l'état de siège. Le tribunal militaire de Beni les condamne tous à 12 mois de servitude pénale principale et condamne chacun à une amende de 250 000 francs congolais payable dans les 8 jours, a déclaré le président du tribunal, le major Anissé Kalambayi. En Tunisie, le président du Parlement, Rached Ghannouchi, a été convoqué par la justice pour complot contre la sûreté de l'État après la tenue d'une séance plénière malgré le gel de la Chambre depuis juillet par le chef de l'État. Les détails avec Jacques Aristide.
Pour Imed Akeniri, député porte-parole des Narda, les accusations contre Rached Ghannouchi, qui est également chef de ce parti d'inspiration islamiste, sont un précédent dangereux. Le président Kais Saied a dissous le Parlement avant-hier, 8 mois après l'avoir suspendu pour s'arroger les pleins pouvoirs. La décision a été prise quelques heures après la tenue d'une réunion virtuelle de 120 députés. Rached Ghannouchi, 81 ans, était absent pendant la plénière et sans 16 parlementaires ont voté pour annuler les mesures exceptionnelles du chef de l'État, mesures qui bloquent, selon eux, le processus démocratique et instaurent un pouvoir autoritaire en Tunisie. Ils ont également appelé à la tenue d'élections législatives et présidentielles anticipées pour sortir de la crise. Le président Saied a qualifié cette réunion de tentative de coup d'État qui a échoué. Il a accusé les participants de comploter contre la sécurité de l'État et demandé à la ministre de la Justice, Leïla Jaffel, d'engager des poursuites à leur encontre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a accusé ce vendredi l'Ukraine d'avoir mené une frappe par hélicoptère sur son sol, tandis que les efforts se poursuivent pour tenter d'évacuer des civils bloqués à Mariupol. Le point avec Eric Manirakiza.
Selon le gouverneur de la région russe de Belgorod, des hélicoptères ukrainiens ont frappé un dépôt de carburant dans la ville, à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a averti que cet événement ne va pas créer les conditions appropriées pour la poursuite des négociations. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a déclaré ne pouvoir ni confirmer ni infirmer l'implication de l'Ukraine. Une nouvelle tentative pour évacuer des milliers de civils bloqués dans la ville de Mariupol devait avoir lieu ce vendredi sous l'égide du CICR. Il n'est pas clair encore si cela va se faire aujourd'hui, a indiqué un porte-parole à Genève.
Les pourparlers russo-ukrainiens ont repris ce vendredi par visioconférence selon le négociateur du Kremlin, Vladimir Medinsky. Nos propositions sur la Crimée et le Donbass n'ont pas changé, a-t-il indiqué en référence à deux régions ukrainiennes, l'une que la Russie a annexée en 2014 et l'autre qui est partiellement sous contrôle des séparatistes pro-russes. D'autre part, le président français Emmanuel Macron s'est de nouveau entretenu ce vendredi avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui lui a demandé de tenter d'obtenir de la Russie les conditions nécessaires à une opération humanitaire à Mariupol, selon l'Elysée. L'Ukraine a annoncé ce vendredi avoir procédé à un échange de 86 de ses militaires contre des Russes, sans préciser le nombre de ces derniers. Un échange vient d'avoir lieu, 86 militaires ukrainiens, dont 15 femmes sont déjà en sécurité, indiqué sur Telegram le chef adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne, Kirillo Timochenko. Le pape François a présenté ce vendredi ses excuses pour les violences perpétrées pendant des décennies au Canada dans des pensionnats pour autochtones administrés par l'Église catholique. Il a exprimé son souhait de se rendre dans le pays fin juillet. Mohamed Oumfa nous en dit plus.
Je demande pardon à Dieu pour la conduite déplorable de ces membres de l'Église catholique et je m'unis à mes frères évêques canadiens pour vous présenter les excuses, a déclaré le pape lors d'une audience au Vatican devant les délégations métisses, inuits et des Premières Nations. Lundi et jeudi, ces délégations formées de 32 représentants autochtones et d'évêques canadiens avaient exposé au souverain pontife le récit des témoignages de survivants. Entre la fin du 19e siècle et les années 1980, quelques 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans plus de 130 pensionnats à travers le pays où ils ont été coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture. Entre 4 000 et 6 000 n'en sont jamais revenus et plusieurs fosses communes ont été découvertes. Cette découverte de centaines de sépultures d'enfants ces derniers mois a secoué le Canada et beaucoup de survivants attendaient un geste fort du pape. En septembre, l'Église catholique du Canada a présenté des excuses officielles aux peuples autochtones.
Les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie ont décidé de puiser de nouveau dans leurs réserves stratégiques de pétrole pour un volume inconnu afin de tenter de faire baisser les cours, a annoncé l'AIE. Ce matin, plus de 30 pays se sont retrouvés pour une réunion extraordinaire et ont décidé de mettre des dizaines de millions de barils de pétrole supplémentaires sur le marché, a déclaré auparavant le président américain. Joe Biden avait annoncé hier qu'il prélèverait pendant 6 mois 1 million de barils par jour dans les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis, soit 180 millions de barils au total. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'économie en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nami Salani.
La Tunisie a besoin d'un accord avec le Fonds monétaire international si elle veut regagner la confiance des prêteurs internationaux, a déclaré ce vendredi le ministre de l'économie, Samir Saïed. Le pays fait face à sa pire crise financière et est en pourparlers avec le FMI pour un plan de sauvetage qui obligerait Tunis à mettre en œuvre des réformes impopulaires comme un gel des salaires et une réduction des subventions. Plusieurs réformes ont déjà été rejetées par le puissant syndicat de l'UGTT qui menace de déclencher une grève générale. Les industries pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest recevront 3,56 millions de dollars de subventions de la Banque africaine de développement pour la mise en œuvre de réglementations permettant un accès en franchise de droits aux matières premières, emballages et produits finis pharmaceutiques dans le cadre du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Le coût total du projet est de 3,77 millions de dollars, auxquels la CEDEAO apportera 200 000 dollars en espèces et 400 000 dollars en nature. Pour terminer, ici aux États-Unis, le taux de chômage a continué à reculer en mars. Il s'établit à 3,6%, proche de son niveau d'avant la pandémie. Par ailleurs, 431 000 emplois ont été créés le mois dernier, selon les données du département du travail. C'est un peu moins que les 475 000 attendus et une baisse par rapport aux 750 000 de février dernier.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. En football, tirage au sort du Mondial 2022 au Qatar à 8 mois de la compétition qui est prévue du 21 novembre au 18 décembre. Les 32 pays participants sont désormais situés dans leur groupe. Le Sénégal s'en sort très bien dans un groupe équilibré, le groupe A, et le Cameroun se trouve dans le groupe G avec le Brésil. Les tirages au sort ont eu lieu ce soir même. Au Qatar, dans le groupe A, donc, on retrouve le Qatar, le pays organisateur, le Sénégal, les Pays-Bas et l'Équateur. Dans le groupe B, on retrouve l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et le barragiste européen qui devra être choisi en juin entre l'Écosse et les pays de Galles. Dans le groupe C, l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Et la France sera dans le groupe D avec le Danemark, la Tunisie et aussi un autre barragiste qui sera choisi en juin. Et dans le groupe E, l'Espagne sera avec l'Allemagne, le Japon et un autre barragiste qui devra être désigné un peu plus tard. Dans le groupe F, la Belgique sera avec la Croatie, le Maroc et le Canada. Et dans le groupe G, choc en perspective entre le Cameroun et le Brésil, qui se retrouve aussi avec la Serbie et la Suisse. Et enfin, dans le groupe H, le Portugal sera avec l'Uruguay, la Corée du Nord, la Corée du Sud et le Ghana. Et puis toujours en football, le sélectionneur national du Nigeria, Augustine Eguavoen, et ses assistants ont démissionné après avoir manqué la qualification du pays pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive.
monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition, maintenant les dossiers du jour. Au Togo, une centaine d'enseignants du primaire et du secondaire ont été exclus pour fait de grève et mis à la disposition du ministère de la fonction publique. Depuis quelques jours, la menace planait sur des membres du syndicat des enseignants du Togo, auxquels les autorités dénient un statut légal. Après un ultime débrayage les 24 et 25 mars, la sanction est tombée. Le point avec notre correspondant à Lomé, Kossi Oussou.
L'incompréhension est grande chez les 137 enseignants concernés par l'arrêté du ministre de la fonction publique. Ils dénoncent une décision inique qui démontre que les autorités ne se sentent pas concernées par les problèmes du secteur éducatif au Togo. Senavon Kokouvi est le secrétaire chargé des relations intérieures et extérieures au sein du Bureau national du syndicat des enseignants du Togo.
Et la décision prise par le ministre a été de l'État. Moi, pour tous les enseignants. Nous nous indignons tellement contre ce type de comportement qui ne permet pas d'amener la calmie dans le système éducatif. C'est clair que nos ministres, nos dirigeants n'ont pas leurs enfants ici. S'ils avaient leurs enfants ici, ils ne pouvaient pas se lever puis faire tout ce qu'on veut aux enseignants. C'est un très mauvais comportement qu'on doit chercher à corriger très rapidement.
L'arrêté du ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, soustrayant ses enseignants de leur corps professionnel, relève des agissements et comportements répétitifs incompatibles avec les aptitudes et exigences attachées au métier d'enseignant. Sur son compte Twitter, Gilbert Bawara indique que ses enseignants ont continué à faire montre d'une attitude de défiance envers l'autorité de l'État et affichent un mépris aux lois en vigueur. Des propos balayés du revers de la main par Kossi Kosikan, membre du syndicat dont le nom figure sur la liste incriminée.
Cette décision arbitraire, je dis bien arbitraire parce que ça n'a suivi aucune disposition de notice ici au pays, mais bon, comme c'est la loi du pouvoir qui passe. Donc, pour le moment, pour moi, c'est un non-événement.
La décision des autorités togolaises intervient à quelques mois seulement des différents examens de fin d'année scolaire. Les parents d'élèves, tout en compatissant au déboire des malheureux enseignants, disent comprendre la décision du ministre de la fonction publique. Apparemment, ils ne supportent plus les grèves intempestives des enseignants. Vincent Tiaro Agbeka, président de l'Union togolaise des parents d'élèves.
Vous savez, nous sommes les facilitateurs entre les syndicats et les autorités. Donc je ne peux pas prendre parti pour la décision qui a été prise. Mais je sais que des ministres ne peuvent pas s'amuser à prendre des sanctions contre des enseignants volontairement. Il doit avoir quelque chose, soit un abus, soit un dérapage. Je compatis avec ceux-là qui ont été vraiment punis. Mais je suis aussi avec le gouvernement pour ne pas laisser chaque fois des dérapages au niveau des enseignants.
Il faut rappeler que c'est la deuxième fois en cette année scolaire que le gouvernement sanctionne des enseignants grévistes. Un millier de directeurs d'écoles primaires avaient été démis de leurs fonctions en novembre dernier. Kossi Oussou Lomé pour VOA Afrique.
Face à la flambée des prix du blé lié à la guerre en Ukraine, les boulangers ivoiriens hésitent entre la diminution du poids de la baguette, qui est déjà fine, et l'augmentation de son prix de 150 à 200 francs. Un reportage de notre correspondante à Abidjan, Aïcha Diara.
En Côte d'Ivoire, la baguette de pain qui se vend à 150 francs CFA va peser désormais 174 grammes au lieu d'un poids compris entre 193 grammes et 228 grammes auparavant et pour ce même prix. Les baguettes un peu plus grosses de 232 grammes vont coûter 200 francs CFA. Traoré Daoud est propriétaire de boulangerie.
On se fait fort de respecter ce poids et respecter le prix national demandé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça nous pénalise un peu parce que déjà, ça nous met en difficulté avec certains clients, surtout les livreurs. Ça nous met aussi en difficulté avec notre comptabilité. Désormais, nos chiffres d'affaires ne sont plus les mêmes. Ça nous donne aussi un peu plus de difficultés au niveau des travailleurs que nous devons payer. Bien vrai que le prix du blé augmente, la farine augmente, mais le prix des travailleurs ne baisse pas. le prix des intrants ne baisse pas. Le prix des matériaux utilisés au niveau de la boulangerie elle-même, en dehors de la fabrication du pain, ne baisse pas.
Quand Tefanta, une vendeuse de sandwich devant une boulangerie, désespère de son commerce.
Moi, je vends les condiments devant une boulangerie. Si le pain devient plus cher que maintenant, là, finalement, on va arrêter de vendre. Le pas de pain, ça ne suffit pas. Soit même quand tu donnes le pain au client, toi-même, la vendeuse, tu t'es gêné. Parce que le pain est très petit. Soit on va arrêter de vendre. Puisqu'il n'y a pas l'argent, il y a quelqu'un qui va venir avec 100 francs. Avec les 100 francs, là, il va vouloir payer le pain, payer le condiment avec. Donc, tu vois que c'est difficile. Donc, ils n'ont qu'à revoir leur position. Donc, comme ça, là, nous, les ménagers, là, ça nous fatigue. Hein. Actuellement, là, il n'y a même pas marché, même. Le marché, il n'y en a pas. Si on dit qu'ils vont faire le pain encore, là, ça, là, ceux qui ont 100 francs ne vont plus manger le pain. Puisque si le pain augmente, là, le condiment qui est là, là, il va payer comment?
Moussa Keïta craint pour le mois de Ramadan qui arrive.
On n'arrive pas à comprendre. Avec le mois de Ramadan qui approche, on augmente le prix de la baguette du pain. Le pain, il est beaucoup consommé, surtout par nous les musulmans. Mais au-delà de nous-mêmes, c'est toute la population ivoirienne qui consomme beaucoup le pain. Donc, c'est une décision qui n'arrange pas, nous, la population. Nous pensons que le gouvernement doit faire plus d'efforts pour essayer d'assurer un bien-être à la population. Ils disent qu'ils le font, mais vraiment, nous, on ne sent pas ça. Voilà, le pain vient d'augmenter. On n'est pas d'accord, mais voilà, on n'a pas aussi les moyens de faire autrement. La mesure ne nous plaît pas, la mesure ne nous sied pas.
Comme à l'impossible, nul n'est tenu, Mariam Traoré pense même pouvoir changer ses habitudes alimentaires.
Actuellement, le pain, c'est compliqué. Non seulement ils ont diminué le poids, ils ont diminué. Pour bien manger, même pour mettre 250 dans un morceau de pain. Si tu n'as pas les moyens, comment tu fais? Donc, c'est pas facile. Donc, le pain où on va, là, vraiment, ça nous arrange plus.
Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Dans son nouveau plan budgétaire, le président américain Joe Biden a proposé une taxe minimale de 20% sur les ménages dont la fortune nette dépasse 100 millions de dollars. Il est peu probable que la proposition obtienne le soutien du Sénat pour devenir une loi cette année, mais elle relance le débat sur l'impôt sur la grande fortune. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
L'une des femmes les plus riches du monde, Mackenzie Scott, a donné plus de 12 milliards de dollars ces deux dernières années en envoyant de l'argent à plus de 1200 associations axées sur la justice raciale, le changement climatique, l'éducation, le droit à l'avortement, l'aide pour la guerre en Ukraine, les droits de l'homme et autres. Eric Stegman est directeur exécutif de Native Americans in Philanthropy.
Nous pouvons utiliser ce financement de la manière dont nos communautés et nos parties prenantes souhaitent que nous l'utilisions de manière stratégique. Nous sommes donc ravis.
L'ex-femme du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, est plus généreuse que son ancien mari, dont la richesse se chiffre entre plusieurs centaines de milliards de dollars. Les États-Unis comptent le plus de milliardaires au monde et la question est donc souvent posée. Avec autant d'argent, devrait-il payer plus d'impôts? Le président Joe Biden dit oui.
A firefighter and a teacher pay more than double.
Un pompier et un enseignant payent plus du double, le double du taux d'imposition qu'un milliardaire paye. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste et mon budget contient un impôt minimum pour un milliardaire à cause de cela. Le taux d'imposition minimum de 20% ne s'applique qu'au plus d'un centième pour cent. Un centième d'un pour cent des Américains paieront cette taxe.
Biden dit que les milliardaires paient actuellement en moyenne 8% de leurs revenus en impôts. Chuck Ma est vice-président au Centre sur le budget et les politiques prioritaires.
Nous constatons que souvent les personnes les plus riches du pays peuvent payer peu ou pas d'impôts sur le revenu. Et c'est parce que leur principale source de revenus ne compte pas chaque année. Et ce n'est pas le revenu qu'ils tirent de leur salaire, mais de la croissance de leurs actifs.
D'autres experts disent que les riches paient beaucoup quand toutes les formes d'imposition sont additionnées, jusqu'à 32% de leurs revenus. Et ils contribuent financièrement à l'économie par d'autres moyens. Chris Edwards est le directeur des études sur la politique fiscale au Cato Institute.
La vaste majorité de la wealth des millionnaires et billionaires est en fait business ownership.
La majorité de la richesse des millionnaires et des milliardaires est en fait la propriété d'une entreprise. La majeure partie de la richesse de Jeff Bezos est la propriété d'Amazon, corporation qui embauche plus d'1 million de personnes par an maintenant, Donc, je ne veux pas que Jeff Bezos paye plus d'impôts et retire la valeur d'Amazon.
D'après Biden, la taxe sur les milliardaires rapporterait 360 milliards de dollars, mais il est peu probable que ce texte soit adopté par le Sénat cette année.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Des experts estiment que les signaux en provenance de Moscou sont mitigés. Les forces russes continuent d'attaquer des villes ukrainiennes alors que des négociations sont en cours à Istanbul. Des responsables ukrainiens indiquent que les deux délégations ont discuté des conditions d'un éventuel cessez-le-feu ainsi que des garanties de sécurité pour l'Ukraine en échange de l'engagement de neutralité de Kiev. Un reportage de Cindy Sain, le récit est de Jacques Aristide.
Les troupes russes continuent de bombarder Kharkiv, Kiev et d'autres villes ukrainiennes, malgré la promesse faite par Moscou de réduire à ces attaques. En Turquie, les deux camps font état de progrès modestes dans leur pourparlers. Le ministre turc des Affaires étrangères a loué les efforts en cours à Istanbul. Des observateurs sont d'avis qu'Ankara cherche désespérément la fin de cette invasion russe de l'Ukraine, surtout pour protéger son économie. Maxwell Hoffman du Center for American Progress via Skype.
It relies on Russian energy for a large portion of its imports.
La Turquie dépend de l'énergie russe pour une grande partie de ses importations. Elle dépend du blé et d'autres importations agricoles des deux pays. Et elle souffre vraiment de la flambée des prix sur les marchés de l'énergie et des matières premières. Et puis, le tourisme est aussi crucial pour l'économie de la Turquie, pour ses réserves de devises étrangères. Les touristes russes et ukrainiens sont importants pour la Turquie et il est peu probable qu'ils y vont ou qu'ils dépensent autant d'argent cette année compte tenu des circonstances.
Le fait que les pourparlers se tiennent en Turquie, pays membre de l'OTAN, est vu comme un avantage pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Elizabeth Shackelford du Chicago Council on Global Affairs.
C'est une énorme différence par rapport aux précédentes négociations en personne qui se déroulaient en Biélorussie, qui est bien sûr l'un des alliés les plus proches de la Russie. Je pense qu'il s'agit donc d'un certain retournement de situation, voulant dire que la Russie n'a plus le dessus.
Les négociateurs ukrainiens indiquent avoir présenté des propositions concrètes, Kiev s'engageant à ne pas rejoindre l'OTAN ou toute autre alliance militaire, en échange de garanties de sécurité fiables, réclamant que l'Ukraine ne soit pas à nouveau envahie par la Russie. Pour sa part, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exprimé son scepticisme quant au désir de paix du Kremlin.
I've not seen anything that suggests that...
Je n'ai rien vu qui suggère que les choses progressent de manière efficace. Au moins, nous n'avons pas vu de signes qui indiquent tout le sérieux de la Russie. Mais si l'Ukraine conclut qu'il y en a, c'est bien et nous soutenons cela.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan voudrait faciliter la tenue d'un tête-à-tête entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Mais le maître du Kremlin a rejeté l'idée.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Georges Léonard Sagnot. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.